Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 8. Et nous continuons donc, comme vous le savez, sur cette série où jeter l'ancre. Aujourd'hui, notre étude est intitulée premièrement « Rebelle sans raison ». Deuxièmement, à Dieu de jouer. Et troisièmement, un rachat effectif et effectué. Chers amis, en contemplant sa création, Dieu vit que cela était bon. La nature, la terre et les mers étaient bonnes. L'air aussi, si nous vivons dans une grande ville, cela nous fait quand même rêver. Mais surtout, voyez-vous, l'homme et la femme étaient bons, proches de Dieu et conversant souvent avec lui. En acceptant l'affirmation arrogante de Satan, l'homme pensait devenir indépendant de son Créateur. Son attitude de dépendance et de soumission à Dieu céda la place à une explosion d'orgueil blessé. Il en vint à se croire frustré par Dieu. Je peux presque l'entendre dire et donc essayer de dérouter par le serpent, comme vous le savez, cette chère Eva. Mais voilà, Eva a pensé qu'elle voudrait se émanciper. Il me faut être moi-même. Regardons un peu de plus près cette idée d'indépendance et cherchons à comprendre pourquoi cette animosité entre le Créateur et nous existe encore aujourd'hui, encore plus que jamais. Or, l'on ne peut connaître de justice absolue, des décisions dont on peut dire à coup sûr elles sont justes, sans avoir un juge absolu. Voyez-vous, de même, la beauté parfaite nous reste inconnue sans un créateur parfait. Jadis, les hommes possédaient la certitude que le Créateur avait agi avec grande sagesse. L'artiste pouvait peindre cette création en sachant que sa représentation serait très belle. Qui, par exemple, aurait dit du pan quel animal laid ? Pas du tout. Vous savez que quand il fait la roue, c'est même un tableau merveilleux. Aujourd'hui, l'artiste va chercher dans la psychanalyse de son fort intérieur les thèmes de ses œuvres. Ce qui paraît beau à l'un repousse l'autre. Mais personne ne peut plus évaluer la créativité avec certitude, car nous avons perdu le Créateur. Nous ne connaîtrons la loi et l'ordre sans avoir un législateur et un régisseur absolu. Nous ne pouvons concevoir une connaissance absolue si personne ne la possède et décide de la communiquer. En bref, nous avons besoin de Dieu bien plus que lui a besoin de nous. Créés à l'image de Dieu, nous devenons plus humains en nous conformant à son image, selon Romains chapitre 8, verset 29. Chercher à se réaliser et à s'épanouir de toute autre manière se révèle totalement irréaliste et finalement fatal. Cherchant à définir l'idée maîtresse de notre époque, un article suggérait « La pensée du XXIe siècle se caractérise par la volonté de se débarrasser de toute norme traditionnelle et finalement de toute contrainte. » En fond, repose évidemment l'idée que tout ce qui n'est pas permis devrait être permis et que toute limite est mauvaise par définition. Faisons donc n'importe quoi. Et cette critique acide tire sa propre conclusion concernant notre époque si imbue de son autonomie en remarquant « Quand l'homme perd ses contraintes, il est libéré, mais non pas libre. » Voici ce que Adam et Ève ne comprirent pas le jour où ils s'emparèrent de l'autonomie proposée par Satan. Ils en voulurent, vraiment, ils en voulurent à Dieu. Mais comment ose-t-il nous refuser la connaissance du bien et du mal? Et cette volonté d'indépendance repose à l'origine de la séparation entre Dieu et l'homme depuis la chute en Éden. Fait intéressant, la rage de l'époque consiste à rechercher la connaissance du bien et du mal au point même de faire disparaître la frontière entre les deux. Certains parlent de libération des mœurs, par exemple, c'est un mouvement aussi moderne que la promesse de Satan quand il dit « Vos yeux s'ouvriront ». Et Adam et Ève furent certes éclairés, mais toute la création en subit les conséquences de ce faux éclairage. Nous vivons dans une génération qui, en effet, a tout vu. Un grand nombre d'individus sont experts dès l'adolescence dans les drogues, la débauche et la vie en général. Combien d'hommes ne se vantent pas d'infidélité envers leur épouse? Combien de femmes acceptent d'assumer le rôle que Dieu leur assigna lors de la création? Obsédées par la découverte de son identité réelle, notre génération se désespère de pouvoir répondre aux questions « Qui suis-je ?» et « Pourquoi suis-je ici ?» La tragédie de la chute se mesure par rapport à la gloire de la création. Dieu avait créé l'homme pour vivre dans une dépendance éternelle à lui. Quand Adam rejeta cet ordre, il déséquilibra la création tout entière. Or, que nous l'acceptions ou non, nous sommes toujours dépendants du Créateur, selon Actes chapitre 17, verset 28. Adam déclara effectivement son indépendance, mais ne l'obtint pas. Et la chute fut totale et affecta tous les secteurs de la vie. La création dans son intégralité en subit les conséquences. Ainsi, le péché touche les domaines physiques, psychiques, psychologiques, intellectuels, moraux et spirituels. Récemment encore, je me lamentais car l'un de mes amis me paraissait névrosé. Mais plus je réfléchissais à ce problème, plus, je nous voyais absolument tous ainsi à des degrés divers. Et cette corruption totale ne fait bien sûr pas de tout homme un horrible sauvage. Mais si le potentiel se trouve là, cependant, comme un cancer généralisé, eh bien les conséquences de la chute affectent tout, absolument tous les domaines de la vie. Ce que nous considérons comme naturel et normal résulte des distorsions d'un monde tordu qui a perdu son chemin. Dieu créa l'ordre du chaos et les hommes s'efforcent depuis lors de détruire. Oui, ils s'efforcent depuis ce temps-là d'essayer de détruire cet ordre. Et quand le péché brisa notre relation avec Dieu, toute la vie en subit les conséquences, pas seulement notre vie spirituelle. Adam et Ève perdirent leur identité. Ils se savaient toujours créés à l'image de Dieu, mais n'étaient plus très sûrs de quoi il s'agissait. Ils commencèrent à connaître la maladie, la fatigue et la frustration, à se plaindre l'un de l'autre. Et dès le deuxième homme, le fratricide apparaît, si vous vous souvenez. L'innocence céda donc la place à la culpabilité. Adam et Ève éprouvaient un sentiment de honte à l'égard de leur corps qui bientôt vieillirait et puis allait mourir. La déception les envahit et ils comprirent très vite qu'essayer de vivre sans Dieu revenait à nier leur propre identité en rejetant celui dont ils étaient le reflet. Ils cherchèrent à régler leurs problèmes à leur manière, en couvrant leur nudité de feuilles de figuier. Mais leur culpabilité surpassait un tel remède. L'apôtre Paul rapporte la lamentation du psalmiste. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Romains chapitre 3, verset 11. Comme le voleur ne s'approchera pas du gendarme, eh bien, nous n'irons jamais vers Dieu, car il nous attrape et il nous révélera tout ce qui est mauvais en nous. Derrière quelle feuille de figuier allons-nous nous cacher ? L'offrande futile de nos accomplissements n'impressionne pas Dieu. Nous l'avons tous volé et il n'existe pas de bon voleur. Le théologien et le truand doivent s'approcher de Dieu absolument de la même façon. Nous devons cesser de le fuir. Le seul espoir réside en la miséricorde divine. Christ affirme, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ce sont les malades, ce ne sont pas les justes que je suis venu appeler à la repentance, pas du tout, mais ce sont les pécheurs, ceux qui sont perdus. Saint Matthieu, chapitre 9, versets 12 et 13, ainsi que le chapitre 18 de Saint Matthieu, toujours verset 11. En vérité, la première condition pour obtenir la grâce de Dieu consiste à reconnaître notre incapacité à l'obtenir. Jésus-Christ amena ses disciples à désespérer de leurs propres efforts. Ils lui demandèrent « Qui peut donc être sauvé ?»« Aux hommes, cela est impossible, répondit-il, mais à Dieu, tout est possible. » Saint Matthieu, chapitre 19, versets 25 et 26. Chers amis, voyez-vous, le problème ne réside pas en Dieu. Nul besoin de douter de la bonté ou de la souveraineté de notre Créateur. Regardons plutôt dans le miroir, car ce qui ne va pas dans le monde vient de nous. Quand Dieu contempla son œuvre de création, voici, cela était très bon. Notre orgueil, notre arrogance et rébellion se manifestent d'autant lorsque, par exemple, nous rejetons sur Dieu la responsabilité d'un environnement pollué tout en continuant à remplir l'atmosphère de nos déchets toxiques. Nous détruisons la vie et ensuite nous blâmons Dieu du résultat. Le problème, je le répète, ne réside pas et ne résidera jamais en Dieu. L'homme s'est rebellé contre son Créateur et évidemment son dessein est donc changé pour l'avenir, pour son avenir et même pour l'univers. La chute a inversé l'acte de création en transformant l'ordre en chaos et en confusion. Reprocher à Dieu les conséquences de nos propres actes s'avère à la fois injuste et irréaliste. Même si la responsabilité de notre culpabilité repose entièrement sur nos épaules, eh bien la chute ne prit pas Dieu par surprise. Elle faisait en fait partie de son plan. Un grand nombre de passages bibliques le démontrent clairement dans Romains, chapitre 8, versets 20 et 22. La création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Même quand le malheur nous atteint, nous savons qu'il appartient au plan de Dieu. Oui, tout le monde parle aujourd'hui du sida. C'est un terrible mal qui porte souvent la mort. Or, si un porteur du virus donne son sang, le receveur risque fort de contracter ce mal. Quand Adam se détourna de Dieu, sa nature changea. Or, nous avons, comme vous le savez, hérité de cette nature déchue, et chacun des descendants d'Adam a reçu ce même sang mauvais que les théologiens appellent le péché originel. Quand un chef d'État signe la constitution ou la déclaration d'indépendance. Il s'exprime au nom de tous ses concitoyens. Un grand nombre d'entre eux ne vit pas encore, mais ce document les engage. Et comment ? Voyez-vous, quand un bébé naît dans le pays, les statuts stipulés dans le document s'appliquent automatiquement à lui. Et parvenu à l'âge adulte, il réalise que les représentants du gouvernement s'expriment à sa place sur les problèmes nationaux et internationaux. Adam, notre représentant devant Dieu, parla à notre place. Nous sommes ses enfants et notre nature s'accorde entièrement à sa nature déchue. En naissant dans sa race, nous recevons automatiquement la citoyenneté adamique et adhérons à sa déclaration d'indépendance. Dès ta naissance, dit Ésaïe, tu fus appelé rebelle. Je crois que c'est dans Ésaïe, chapitre 48, verset 8, ainsi que dans le psaume, chapitre 51, verset 7, également le psaume, chapitre 58, verset 4. Je répète, Adam, notre représentant devant Dieu, parla à notre place. Et nous sommes donc ses enfants et notre nature s'accorde absolument, entièrement, à sa nature déchue. Et aussi en naissant dans sa race, nous recevons évidemment automatiquement la citoyenneté adamique et adhérons à sa déclaration d'indépendance. Si, par exemple, une usine déverse des produits toxiques dans une rivière, elle n'en affecte pas seulement quelques mètres, mais très vite, la pollution s'étend à l'ensemble de la rivière. Il y en a qui savent quelque chose de tout cela quand on pense à ce pétrole qui s'échappe par milliers de litres tous les jours, n'est-ce pas ? Et qui va donc inonder toute la Louisiane, toutes les côtes par là-bas, et détruire tout ce qui avait été longuement et péniblement élaboré pour préserver des tas d'animaux et d'oiseaux qui sont en voie de disparition. Eh bien, on sait ce que ça veut dire de tout polluer et de tout détruire. Donc la rébellion d'Adam ne s'arrêta pas à lui seulement, mais pollua toute sa race qui devint inutile devant Dieu. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul, nous dit Romains chapitre 3, verset 12. Nul ne peut se prétendre meilleur à un autre, car tous se trouvent logés absolument à la même enseigne. L'homme, il est donc né déjà en conflit contre le Dieu qui l'a créé pour son plaisir. Il ne naît pas neutre, mais en zone de guerre et du mauvais côté du front. Tous les problèmes avec nous-mêmes, avec autrui et dans le monde proviennent en réalité de notre nature déchue de rebelle. Non seulement l'homme fait le mal, chute et se trompe, Il est mauvais en lui-même, déchu et perdu. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ? Nous dit Jérémie, chapitre 17, verset 9. C'est ainsi que Adam nous représentait lors de sa chute et nous a passé les conséquences de son éloignement de Dieu. Néanmoins, nous sommes pleinement responsables de nos actes, et oui, de nos actes d'incrédulité et de désobéissance envers Dieu. Le fait d'être par nature des enfants de colère, selon Éphésiens 2, verset 3, n'exclut en aucun cas notre décision personnelle de nous retourner de Dieu, ou plutôt de nous détourner. Je répète, le fait d'être par nature des enfants de colère n'exclut absolument pas notre décision personnelle de nous détourner de Dieu. C'est ce que nous faisons assez souvent, me semble-t-il. Donc, nous péchons par nature et par choix. Il nous est utile de comprendre pourquoi nous désobéissons à Dieu et nous détournons de lui. Mais cela n'enlève pas notre culpabilité devant lui. Pourquoi ne croyez-vous pas? Eh bien, parce que vous l'avez décidé de façon délibérée. C'est le libre choix. Il s'agit de votre propre décision. Il s'agit de la décision de tout homme en dehors de la grâce de Dieu. Nul ne sera condamné à la perdition éternelle seulement pour avoir hérité la nature d'Adam. Tout être humain sera aussi jugé d'après les actes répréhensibles qu'il aura lui-même commis. Chacun de nous exprime sa nature mauvaise, et ceci, évidemment, à sa nature, à sa manière, selon comme il est à l'intérieur, et selon l'inclinaison évidemment de sa volonté déchue. Une dernière remarque sur le péché originel et personnel, nous ne sommes pas les victimes, chers amis, mais nous sommes la cause et la source du péché. Et de son plein gré, Adam pécha et assujettit la volonté humaine au péché. Quand nous commettons le péché, il s'agit de notre propre choix. Et lorsque nous refusons de reconnaître l'autorité de Dieu dans notre vie, nous le décidons nous-mêmes. Et Dieu nous en demandera un jour ou l'autre des comptes. En réalité, la situation se révèle encore plus sérieuse. Par un seul homme, est-il dit dans Romains chapitre 5, par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Et ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts. Romains chapitre 5, versets 12 et 15. Dans notre naissance, nous étions physiquement en vie et réagissions au monde environnant de façon bien directe en pleurant tout simplement. un petit cri, par exemple. Pourtant, malgré cette vitalité sur le plan physique, nous étions spirituellement morts-nés. Ça, c'est difficile à avaler. Je dis, lors de notre naissance, nous étions physiquement en vie et réagissions au monde environnant de façon bien directe, en poussant un petit cri ou en pleurant. Et pourtant, malgré cette vitalité sur le plan physique, et ça, c'est donc quelque chose qu'il faut bien écouter et assimiler, hein, nous étions spirituellement des morts nés. Nous ne réagissions pas, ni ne pouvions, au domaine spirituel. Aussi à la création, Dieu dota l'homme d'un esprit vivant, gage de sa pleine humanité, mais l'avertit qu'il mourrait le jour où il lui désobéirait. Bien sûr, Adam mourut physiquement bien des années plus tard, mais cet esprit qui constituait le point commun réel entre Dieu et sa créature mourut ce jour-là. Donc Adam perdit toute harmonie avec son Créateur. Éphésiens chapitre 2 verset 1 déclare « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. » Et semblable affirmation se retrouve partout, absolument partout, dans l'Écriture sainte et mettent l'accent sur la réalité tragique de notre séparation de la vie divine. La mort revêt un caractère définitif. Quand quelqu'un meurt, l'on n'attend plus rien de lui. Nous pouvons l'appeler par son nom, même très fort, nous ne recevrons aucune réponse. Nous le déclarons mort car il demeure sans aucune réaction. De même, l'homme, à son état naturel, ne communique plus du tout avec Dieu dans le domaine spirituel. Il ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, selon 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Une question sérieuse. Dans le jardin d'Éden, Dieu tira-t-il donc le drap sur le cadavre de l'humanité? Tout était-il fini pour notre race? Alors, que faire? Seulement, ce que Dieu nous donne, la grâce d'accomplir, c'est ce qu'il faut faire. Il nous faut accepter de vivre selon la grâce que Dieu nous accorde. Et voici le message central de l'Évangile. Le salut nous vient de l'Éternel. En se cachant de lui, eh bien, Adam et Ève manifestèrent leur nouveau penchant à fuir tout simplement Dieu. Et combien peu ils voulaient le chercher. Nous avons tous au fond de nous-mêmes le sentiment d'être en quelque sorte en révolte contre Dieu. Quelque chose ne va pas et nous le savons très bien. Un grand nombre d'hommes désirent se mettre en règle avec Dieu, mais à leur façon. mais s'ils admettent leur importance, il leur faut aussi reconnaître ne pas pouvoir invoquer le nom du Seigneur sans lui devenir redevable. L'on entend souvent dire dans le monde « Je ne lui demanderai pas son aide, car je lui serai en compte, donc redevable. » Plus l'on reconnaît son besoin de l'intervention de Dieu, plus l'on ressent sa propre dette envers lui. Or, nul n'apprécie avoir des dettes. Nous prenons en quelque sorte l'orgueil à dire « Oh, je l'ai fait tout seul ». Dans le domaine spirituel, cependant, nous ne pouvons rien accomplir simplement de nous-mêmes. Bien au contraire, l'Écriture sainte affirme très clairement combien nous dépendons entièrement de Dieu, non seulement pour l'air, la nourriture et un toit, mais aussi, il faudrait jamais l'oublier, mais aussi pour le salut. N'avons-nous pas appris la leçon de la tour de Babel? Personne s'en souvient de la confusion qui intervint quand les hommes cherchèrent à atteindre Dieu. L'on ne peut atteindre Dieu, mais l'on ne se trouve jamais hors de son atteinte. L'on peut mériter l'approbation d'autrui, et un millionnaire, par exemple, peut très bien faire un don très important à une œuvre, mais s'il demeure en Adam, vous avez bien compris ce que ça veut dire, s'il demeure en Adam, donc mort par ses offenses et par ses péchés, rebelle même par nature, eh bien croyez-moi, sa générosité impressionnera seulement les hommes, mais certainement pas Dieu. Quant à Dieu, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux chapitre 11, verset 6. La faveur d'autrui ne modifie en rien notre destin éternel. En revanche, posséder la grâce de Dieu donne à tous nos actes une valeur éternelle. En résumé, Dieu doit lui-même nous conférer le mérite qui nous obtiendra sa faveur. Donc, c'est à Dieu de jouer. Et chers frères et sœurs, la Bible nous dit, dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 10, « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. » Deuxième épître de Pierre, chapitre 1, verset 10. La doctrine de la chute n'a jamais fait recette, mais courage. La Bible ne s'arrête pas là, heureusement. Tout aurait pu en effet se terminer par le jugement de Dieu. Peut-être les anges le craignaient-ils. Satan, en tout cas, pensait avoir anéanti le plan divin pour l'univers. En réalité, il l'accomplissait à son insu, car il avait tout simplement oublié de tenir compte de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Qui aurait imaginé qu'il déciderait d'aller à la rescousse de cette race rebelle? Dieu n'a jamais eu l'intention d'abandonner le monde à son sort, à son triste sort. Et de toute éternité, il possède un plan de rédemption prêt à être exécuté en temps voulu. Même quand la situation semble désespérée, Dieu entre en scène. Le président est choisi parmi un éventail de candidats et l'élection sépare l'élu de tous les autres. Cette même dynamique se retrouve dans l'affirmation de Christ quand il dit « Je vous ai choisi du milieu du monde » Évangile de Saint Jean, chapitre 15, verset 19. Nous élisons nos dirigeants d'après leur accomplissement passé, mais Christ nous choisit sans être conditionné ainsi. Qui parmi nous aurait le front de se présenter sur la base de sa conduite dans le passé? En tout cas, pas moi. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, affirma Jésus-Christ, mais c'est moi, moi qui vous ai choisi et je vous ai établi, affirma Jésus-Christ. Mais moi, je vous ai choisi, oui, et je répète, je vous ai établi. Pourquoi? Afin que vous alliez et que vous portiez quoi? Que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Notez Saint Jean, chapitre 15, verset 16. Aussi parmi cette race rebelle déchue, Dieu a sélectionné des hommes et des femmes et des enfants afin de former une autre race, c'est-à-dire une humanité spirituelle nouvelle. Et ceci afin de former une autre race, donc une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Donc, un peuple acquis. Or, un auteur anonyme mais bien inspiré s'est exprimé ainsi. Ce n'était pas que je t'avais choisi, car Seigneur, cela ne se pouvait. Si tu n'étais venu et m'avais pris, ce cœur encore te refuserait. Je répète, ce n'était pas que je t'avais choisi, car Seigneur, cela ne se pouvait. Si tu n'étais venu et m'avais pris, ce cœur encore te refuserait. C'est pas beau cela? Et ces lignes tracent la conviction d'incapacité de leur auteur à atteindre le salut. Il sait sa situation désespérée sans l'intervention divine, car il ne choisirait jamais Dieu si celui-ci ne l'avait choisi en premier. Le caractère dévorant et les conséquences définitives du péché exigent, croyez-moi, une intervention divine décisive, sans laquelle nul ne parvient au salut. Nous continuerions à fuir loin de Dieu, cherchant à dissimuler notre culpabilité par nos propres moyens, s'il n'y avait pas un autre moyen? Et il n'y en a pas. S'il n'avait décidé, lui, Dieu, de nous attirer à lui. Je crois que ça vaut la peine de répéter le tout. Voyez-vous, nous continuerions à fuir loin de notre Seigneur. Et ceci pour chercher à dissimuler notre culpabilité par nos propres moyens, s'il n'avait décidé, lui, le Seigneur, de nous attirer à lui. Si nous devenons enfants de Dieu, donc, cela vient simplement, certainement, pas de nous, mais de son grand amour dans lequel il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Éphésiens 1, verset 5. Ça, c'est pas facile à croire, ou si il faut le répéter. Je dis donc, si nous devenons enfants de Dieu, cela vient de son grand amour dans lequel il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Éphésiens chapitre 1, verset 5. Souvenons-nous, notre identité se trouve soit en qui? Soit en Adam, ou soit en Christ. En lui, le Fils, Dieu le Père, il nous a élus avant la fondation du monde. C'est incroyable et nous avons de la peine à le comprendre. Donc, nous devons jamais oublier que notre identité se trouve soit en Adam ou soit en Christ. Et c'est seulement en lui, le Fils, Dieu le Père, qui nous a élus carrément avant la fondation du monde pour que nous puissions être, ou si vous voulez, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Grâce au choix de Dieu, nous passons donc de la faiblesse d'Adam à la merveilleuse famille de Dieu. Chers amis, voyez-vous, la présence de Dieu avec nous se révèle extraordinaire en elle-même, mais elle ne suffit pas pour changer notre état présent, car l'incarnation nous enseigne que Christ vint ici-bas vivre avec nous. Notre union avec Christ montre que Dieu peut vivre en nous. Et Jésus-Christ peut venir naître dans l'humble étable de notre cœur. Et en raison du mystère de l'incarnation, le Saint-Esprit peut demeurer en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3, verset 16. Et quand Jésus-Christ naquit, voici plus de 2000 ans, il inaugura une nature humaine nouvelle. Absolument. Jadis, nous appartenions à la race d'Adam. Mais maintenant, nous pouvons être amenés sous celle de Christ. Ça change tout. Et en naissant en nous, il nous donne une nature nouvelle. L'humanité glorieuse du Christ ressuscité, tout comme Dieu avec nous, changea le cours du monde. Eh bien, Dieu en nous, hein, et ceci par l'Esprit Saint, transforme notre vie de façon irréversible. Répétons cela. Tout comme Dieu avec nous changea le cours du monde, Dieu en nous, par le Saint-Esprit, transforme notre vie de façon irréversible. Et nous ne connaissons plus du tout le désespoir, même face à nos frustrations et défaillances. Il y en aura, bien sûr, et j'en sais quelque chose. Mais je sais aussi que, avec l'aide de l'Esprit Saint, nous sommes victorieux. Rien ne réjouit plus le chrétien que de s'entendre dire « Il y a quelque chose de différent en vous ». En effet, l'autre a vu Dieu en lui. Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, par l'Esprit Saint, l'espérance de la gloire. Colossiens chapitre 1 verset 27. Cependant, Dieu avec et en nous ne suffit toujours pas. Sa parole nous apprend qu'il y a des plans encore plus ambitieux à notre égard, qui impliquent aussi notre entourage. Oui, le chrétien, suivant l'esprit de la société en général, consacre beaucoup trop de temps à rechercher ses propres intérêts. Nous parlons sans cesse de notre relation personnelle avec Christ. Et le reste du monde, est-ce qu'il n'existe pas? Prenons-nous tant de temps à nous faire une toilette que nous n'en avons plus pour examiner les implications de l'action de Christ au travers de nous pour changer le monde? Nous avons bien sûr besoin de la communion fraternelle. Ne serions-nous pas cependant devenus un ghetto? Contrairement à l'auteur de notre foi, le monde ne nous touche pas vraiment. La peur de voir le mal nous atteindre ou le monde s'approcher un peu trop près de nous nous hante. Aussi jetons-nous la pierre aux pécheurs au lieu d'approcher le pécheur avec compassion. L'incarnation ne s'arrête pas seulement à vous et à moi. Le bébé de la crèche, l'occupant des lieux célestes, le Christ qui vit en son peuple, veut maintenant vivre sa vie au travers de son peuple, en voyant notre vie individuelle et collective. Le monde devrait confesser Jésus-Christ est vivant. Voyez son corps. Et Dieu possède, en effet, un plan merveilleux pour ce monde. Et il appelle ses enfants à y jouer un rôle indispensable. Oui, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Philippiens chapitre 2, verset 13. Il est venu à nous et en nous. Nous avons désormais la responsabilité de participer à sa merveilleuse mission. Jésus-Christ vint en ce monde de façon miraculeuse, ne l'oublions jamais. Marie, instrument béni et honoré, ne joua aucun rôle dans sa conception mystérieuse, sinon de dire « qu'il me soit fait selon ta parole ». Comme elle demanda « comment cela se fera-t-il ? » Nous devons nous interroger avec émerveillement « comment Jésus-Christ peut-il être conçu dans mon âme. La même réponse s'applique. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Saint Luc chapitre 1, verset 35. Grâce à l'incarnation, nous pouvons connaître le miracle de Dieu avec nous, en nous et par nous. La Bible dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et cette affirmation fixe ensemble l'amour et la grâce de Dieu qui est démontré par le sacrifice de Christ. La croix occupe une place au centre du monde, de l'histoire, de notre destinée, et elle se fixe carrément dans le cœur même de Dieu. Le plan de Dieu consiste à sauver le monde en se choisissant un peuple qui est issu de toutes les nations pour former une nouvelle humanité. Christ prouva que le cœur de Dieu s'ouvrait à tous, non seulement aux chefs religieux ou aux chefs politiques, mais aux hommes, aux femmes et enfants de tout rang, de toute couleur et de toute race. Dieu n'est pas raciste, heureusement. La croix illustre une vérité profonde. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Gloire à Dieu. 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Attention. Tous les hommes, sans exception, seront-ils vraiment sauvés? Réponse. Pas du tout. Je prends l'Écriture sainte au sérieux et je ne crois pas que chaque être humain dans le monde connaîtra le salut. Néanmoins, je dois être universaliste dans la mesure où je reconnais que le plan de Dieu ne se limite pas au niveau de l'individu seulement. Dieu voit en effet l'humanité dans son ensemble, comme une seule communauté. Christ vint ici-bas, non seulement pour sauver les pécheurs, mais aussi pour être le sauveur du monde, selon 1 Timothée chapitre 1 verset 15 et selon l'évangile de Jean chapitre 4 verset 42. Or, il est dit dans l'évangile de Saint Jean chapitre 3 verset 17, là, il est montré que l'accent est mis sur l'aspect universel de la mission de Christ, et ceci pour le monde comme une seule communauté, l'humanité en tant que race. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé, vraiment sauvé par lui. Et le verset 18, pour sa part, présente le monde au niveau de l'individu. Il est dit que celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Répétons cela. Ça, c'est le verset 18 de Saint Jean chapitre 3. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Ainsi Dieu désire sauver à la fois des individus et le monde qu'il créa, et je m'explique aussi bien que possible qu'au dernier jour, le péché disparaîtra enfin de la création et il y aura un nouveau commencement. On peut dire Alléluia. Christ, par sa mort, obtint la purification non seulement de personnes, mais aussi de toute la création. De cette manière-là, il ôte le péché du monde. Il ne rend pas possible l'expiation du péché, remarquons-le, mais il l'accomplit. Et nous pouvons donc être certains que Christ a obtenu le salut d'individus, les nouvelles créatures et de la création, les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Le monde déchu par la faute d'Adam est donc enfin rétabli en Christ. L'une des doctrines les plus choquantes et les plus controversées de l'Église primitive consistait en l'universalité du plan de Dieu. Les Juifs avaient toujours considéré l'œuvre du Messie comme une restauration seulement de la nation d'Israël et non comme la rédemption d'hommes de toute nation. Évangile de Jean, chapitre 11, versets 51 et 52 en particulier, souligne et corrige ce malentendu. Le souverain sacrificateur prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu qui sont dispersés. Et plus tard, le même disciple écrit de Christ, il est lui-même une victime propitiatoire pour tous nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour ceux aussi du monde entier. Premier épître de Jean, chapitre 2, verset 2. L'œuvre expiatoire de notre Dieu ne respecte aucune restriction à la fois temporelle, nationaliste, économique ou politique. Il s'adresse donc à tous. Aussi bien pour la Corée du Nord que pour la Corée du Sud, qui aimerait peut-être se détruire les uns les autres, sans compter tous les autres dans le monde entier. Chers amis, parlant des missions et de l'évangélisation, l'on emploie souvent l'expression « gagner le monde pour Christ ». Ceci n'évoque pas le salut de tout être humain dans le monde, mais indique les implications universelles de l'Évangile. Il faut proclamer la croix à tout être humain partout dans le monde, car chacun a la responsabilité d'accepter le message ou de le rejeter. L'entendu universel, ou si vous voulez plutôt l'étendue universelle du salut, elle s'étend dans le sens où il renverse toutes les barrières et inclut toutes sortes d'hommes absolument sans distinction. Elle n'inclut pas seulement chaque individu sans exception. Et si cela semble se contredire, réfléchissons un instant. Je peux parler de paix mondiale sans pour cela vouloir dire que chaque personne soit en paix avec son voisin. si je fais allusion à la faim dans le monde, il reste cependant beaucoup d'individus qui mangent absolument à leur faim. Le monde ne signifie pas toujours chaque individu sans exception, mais plutôt une entité globale. Saint Luc parle d'un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Saint Luc, chapitre 2, verset 1. Cela ne concernait pas tout être humain à la surface du globe. Les pharisiens disaient « Le monde est allé après lui » Jean chapitre 12 verset 19. Mais d'autres affirmations nous montrent que tout le monde ne suivait absolument pas Jésus-Christ. Vers la fin de Romains, l'apôtre Paul écrit ceci « Tout Israël sera sauvé. » Romains, chapitre 11, verset 26. Cependant, il affirme un peu avant qu'en Israël, il y a un reste selon l'élection de la grâce, verset 5. Et il montre entre-temps que tout Israël sera sauvé au moyen d'un reste qui a été choisi par Dieu. Si tout Israël sera sauvé grâce au salut d'un petit reste, et selon l'élection de la grâce, pourquoi ne pouvons-nous pas dire, chers amis, que le monde sera sauvé au travers d'un reste qui a été choisi par sa divine grâce. Telle est donc la portée de l'évangile de Saint Jean, chapitre 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour sauver non ceux qui meurent dans l'incrédulité, mais tous les croyants. Il vint sauver le monde et non simplement pour le juger. Et grâce à ce reste, à ces élus issus de toutes les nations, le monde sera donc sauvé. La race humaine n'est pas perdue, sa lignée se poursuit au travers d'une nouvelle race spirituelle, et le royaume de Dieu sera vraiment tel qu'il l'a voulu. En considérant les implications universelles de la croix, nous voyons alors une planète que Dieu est venu reconquérir. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir, oui, avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Et ceci avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La création toute entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Romains chapitre 8, versets 19, 21 à 23. Toutefois, quand nous considérons les implications de la croix sur le plan individuel, nous reconnaissons que Jésus-Christ a sauvé son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1, verset 21. Le salut atteint à la fois le monde dans son ensemble et des individus dans ce monde. Christ est donc le sauveur du monde et celui de son Église. L'été où les Jeux olympiques se tinrent dans un certain pays, eh bien, l'ont répété sans cesse que le monde est à notre porte. J'aime bien la compagnie, Mais la pensée de voir chaque homme, chaque femme, chaque enfant de la planète venir littéralement à ma porte m'aurait très inquiété. Heureusement, nous comprenons le sens de cette expression des individus venant de toutes les nations se trouvaient près de nous. De même, ce CD sera distribué dans le monde, mais je sais que chaque citoyen des pays concernés n'en possédera pas un exemple. Optimiste, oui, mais pas complètement fou. Le plan de Dieu comprend donc le salut du monde représenté par ce reste qui forme l'épouse de Christ, c'est-à-dire unique et uniquement ceux qui répondent un oui. Vous avez bien compris, le plan de Dieu comprend le salut du monde représenté par ce reste qui forme l'épouse de Christ, et c'est-à-dire uniquement ceux qui vont répondre oui. Il faut bien entendu que nous comprenons cela. L'on entend dire « Dieu aime le pécheur, mais il haït le péché ». Mais le psalmiste déclare « Dieu haït pas seulement l'iniquité, le mal en général, mais également ceux qui pratiquent le mal. N'oublions jamais cela. Si je vous demande « Aimez-vous tous les hommes ?» vous répondrez probablement par l'affirmative, mais si vous êtes marié, vous éprouvez probablement un amour un peu plus fort pour votre conjoint, ou alors je ne donnerai pas très cher de l'avenir de votre couple. Chers amis, un père se sentira-t-il peut-être concerné par le sort des enfants du monde entier ? Néanmoins, cela ne se compare pas à son intérêt et à son amour pour ses propres enfants. De même, Jésus-Christ est mort, il mourut, afin de réunir les enfants de Dieu dispersés dans ce monde. Cette optique, chers amis, n'impose-t-elle pas pourtant des limites à l'amour de Dieu? Bien au contraire, tout en le restreignant à ceux qui croient, elle l'intensifie. Cet amour qui choisit et sauve effectivement tous les objets de ce choix dépasse de loin la sorte de bienveillance générale et indéfinie dont on parle tant aujourd'hui. Chers amis, nous allons terminer par la prière. Et comme vous le savez, cette étude, cette série continue encore pour un bon moment. Prions. Seigneur notre Dieu, Dieu de paix et dispensateur de tout don excellent, allume et nous t'en supplions dans le cœur de tous les hommes un amour véritable de la paix et un ardent désir de la servir au foyer, dans la cité, dans l'église et de la propager entre les églises, entre les diverses confessions chrétiennes, entre les nations, entre les races, entre les vrais adorateurs dans les diverses religions. Soumets toujours davantage les hommes à l'action de ton Esprit Saint, tandis qu'ils gaspillent leurs forces et gâchent leur temps à entretenir le désordre et la haine dans la création par leurs stériles disputes ou leurs sanglantes querelles. Donne-leur, ô Dieu, d'écouter le message du Prince de la Paix qui a proclamé « Heureux ceux qui procurent la paix, car le royaume des cieux est à eux. » Amen. Et merci de la fidélité de votre écoute, de l'intérêt que vous portez à ces études. Et n'oubliez jamais que Dieu vous aime. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis. Et à bientôt à nouveau. Au revoir, mes très chers amis.